Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Les vraies voix du mois d'août avancent sereinement, emplies de dynamisme et de conviction vers la rentrée. Bonjour à tous, jeudi 18 août, la canicule a transmis le relais à la tempête, la sécheresse a transmis aux inondations. En cette période de championnat d'Europe d'athlétisme, des records sont battus. Nos athlètes vraies voix sont bien entraînés, rassurez-vous, pour tenir ces deux heures. Meilleur espoir, des LR élevés à la chaleur, Tarnaise, nouvelle machine à récupérer des voix. Mais attention au syndrome de l'éternel espoir des Michel Noir, François Barouin, Laurent Wauquiez. Il a entendu le message, Guilhem Carayon, président des Jeunes Républicains. Bonsoir.
Bonsoir.
Meilleur élu de terrain sur la scène écologique européenne, un sens de la formule inné, une ville et ses bonheurs pour le soutenir. Ça se voit d'ailleurs au teint. Vincent Chauvet, maire Modem d'Autun, en Bourgogne. Bonsoir. C'est vrai, on a le teint allé avec le beau temps à Autun. Meilleure combattante contre les pratiques dopantes, éprise de justice et de combat pour l'amour de l'amour maternel. Même si sa lutte anti-GPA suscite la question éthique, elle contrôlera qu'aucun relais ne soit donné sans respect des principes. L'essayiste Céline Revel-Dumas, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous savez tout. Nos vraies voix sont bel et bien remontées. Dans un instant, le coup de cœur s'est promis, non sans vous avoir rappelé que vous êtes les bienvenus, les auditeurs de Sud Radio, pour la consultation sur les comptes Twitter et Facebook, Sud Radio, avec une première question que nous vous poserons à 17h30. L'islamisme va-t-il museler la liberté d'expression? C'est en gros le thème de tous les hebdomadaires qui sortent en ce jeudi. Alors nous nous poserons aussi la question à la réalisation Lucille Montier, votre interlocuteur sur les réseaux sociaux Aurore Cachia. Allez, on y va. Mon coup de cœur.
Les vraies voix Sud Radio.
C'était un plaisir de voir ces automobilistes sourire aux lèvres sur toutes les chaînes d'information depuis hier. Le prix de l'essence a encore baissé, oui, 1,75€ le gasoil. Le cauchemar du 2€ est parti, c'est mieux et... C'est mon coup de cœur, vous l'avez compris. Oui, mais après, j'ai fait le constat. Certes, nous avons échappé au cauchemar, mais nous ne nous sommes pas encore réveillés. Normal, ça s'appelle un chaos debout, ce qu'on a subi. Alors réveillons-nous. Vous vous souvenez, cet hiver, l'essence à 1,20€. Ensuite, il y a eu l'augmentation progressive, toujours plus haut. Nous avons compris qu'avec la reprise économique, nous ne pouvions pas échapper à la hausse. Chers automobilistes, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre quand même. Et puis je consulte hier le magazine Challenge et je lis « L'or noir remplit les poches du Moyen-Orient. La flambée des cours de pétrole que l'OPEP, les pays producteurs de pétrole, freine à minima, donne des ailes à Oman, au Qatar, ça tombe bien, on a pu comme ça conserver Mbappé, ou encore à l'Arabie Saoudite. Il y avait donc les super profits des entreprises de l'énergie sur le dos de la crise, Total, Engie. Il y a maintenant le super investissement des pays producteurs, comprenez pour nous le super enfumage en pleine crise. Ces très forts prix des carburants sont aussi permis à ces pays de la péninsule arabique de relancer leur spectaculaire projet de diversification économique. Allez, ne vous désolez pas, chers automobilistes. Vous serez bientôt touristes, c'est tendance. Vous pourrez entrer dans un centre commercial à Abu Dhabi. Lors de vos prochaines vacances, vous pourrez trouver du beurre, l'argent du beurre et la crémière. Voilà, bien sûr. Alors, réaction autour de la table. Bon.
C'est une bonne nouvelle pour les Français.
Oui.
C'est une bonne nouvelle pour les Saoudiens.
Oui, entre
donc,
autres.
Tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, il était temps un peu que les prix de l'essence baissent, effectivement. C'est vrai qu'il y a eu quelques polémiques en plus sur les super profits de Total Energy récemment. Il y a aussi eu des informations sur le fait que Total Energy n'avait pas payé d'impôts en France sur des résultats en 2019 et 2020. Ça faisait beaucoup. Je crois que l'essence devient le nouveau pain de la Révolution française.
Oui.
C'est-à-dire qu'avant, le prix du blé allait probablement être le déclencheur de révolution. Là, le prix de l'essence, c'est pour aller travailler, c'est pour se déplacer, pour avoir des loisirs, pour vivre tout simplement. Même si à Paris, effectivement, on a besoin On n'a pas besoin tant de la voiture que ça.
Ouais, à Paris, ça va. Dans les villes, ça va. C'est les banlieusards pour qui c'est.
Non, et puis même moi, je suis d'origine charentaise, je peux vous dire qu'on a besoin de la voiture pour tout là-bas. Donc, je crois qu'il était temps pour que le gouvernement comprenne, et Total Énergie aussi peut-être, qu'il fallait avoir la main un peu plus leste sur la taxe.
Angoulême-Rochefort, c'est incontournable, ça se fait en voiture. Oui, réaction, comme le dit donc Céline Revel-Dumas, réaction parce qu'au bout d'un moment, ça ne passe plus. Les pays du Golfe, s'il y a une baisse des tarifs, c'est aussi parce qu'ils ont accepté de relancer la production, Vincent Chauvet.
Oui, absolument. Pour revenir sur la métaphore de mon interlocutrice précédente, à l'époque de la Révolution, on disait s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. On dit un petit peu, s'ils n'ont pas de pétrole, qu'ils prennent du gaz.
Voilà.
Or, le problème en ce moment, c'est que si le pétrole baisse, et on peut s'en réjouir par certains aspects économiques, mais c'est vrai que d'un point de vue écologique, c'est quand même retarder encore la transition nécessaire vers une économie décarbonée, en sachant qu'à partir de 2035, notamment, les véhicules thermiques seront interdits. Mais les prix du pétrole baissent, les prix du gaz flambent, sans jeu de mots, puisqu'ils continuent de s'envoler, et ce qui nous promet un hiver chaud, ou froid, mais en tout cas un hiver compliqué, parce qu'un certain nombre de chaudières fuel sont maintenant au gaz, un certain nombre de particules aussi se sont convertis au gaz, même si là aussi on sait que bientôt on pourra plus avoir de chaudière gaz dans les habitations nouvellement construites, mais ça pose de vraies questions. Et là, les super profits, les vendeurs de gaz, c'est à peu près les pays que vous avez cités, c'est à peu près les mêmes entreprises aussi que vous avez citées. Donc s'ils gagnent un peu moins d'argent en ce moment sur le prix à la pompe, ils gagneront probablement plus d'argent sur le gaz qui est là lié à la spéculation.
Alors autant on peut faire pression, voilà, c'est profit, pression, c'est proche. Autant on peut faire pression sur les entreprises qui font des profits, autant sur des pays comme l'Arabie Saoudite, Oman, Abu Dhabi, etc., c'est plus difficile.
Ah oui, d'autant qu'on a accueilli MBS il n'y a pas longtemps, je crois.
Mohamed Ben Salman.
Donc c'est pas qu'on fait pression sur eux, c'est qu'on les caresse dans le sens du poil, parce que tout notre confort hivernal repose sur lui pratiquement.
Guilhem Carayon.
Moi, je viens d'un département, le Tarn, dans lequel, quand on veut aller bosser, on est obligé de faire minimum 20 à 30 kilomètres.
Albicastre, pareil, hein.
Albicastre, c'est encore plus long, mais dans tous les cas, quand vous habitez dans le Tarn, vous êtes obligé de faire des bornes pour pouvoir aller bosser, pour pouvoir vivre dignement et élever vos gosses et les nourrir. La vérité, c'est que les prix à la pompe ces 6 derniers mois ont été inacceptables. Insupportable pour les Français. Moi, j'étais candidat aux élections législatives dans le Tarn, et la phrase que j'ai le plus entendue pendant ma campagne, je faisais beaucoup de porte-à-porte, j'allais chez les gens, je toquais à leur porte pour essayer de les écouter.
C'est courageux, ça, c'est pas évident.
Oui, c'est pas évident, mais on apprend énormément de choses. Et moi, la phrase que j'ai le plus entendue, les gens me disaient, on en a marre de devoir choisir entre remplir notre voiture de carburant, notre réservoir de carburant, et remplir notre frigo.
Ouais.
Et le problème, c'est que c'est la vérité pour des millions de Français, qui ont dû faire des efforts, c'est-à-dire ne pas manger de viande, par exemple, pendant des semaines, faire des efforts sur leur consommation alimentaire, de manière beaucoup plus importante qu'avant, tout simplement pour pouvoir rouler, pour pouvoir aller bosser. On est en France, quoi. On est la 5e puissance mondiale, c'est plus le cas maintenant, mais on est censé être un pays riche. Et moi, j'ai l'impression que ce pays est en train de se tiers-mondiser. Évidemment, on n'est pas encore au niveau de pays plus au sud que nous, mais en tout cas, on est sur cette voie-là. On est sur la voie de la tiers-mondisation. Donc si on ne réagit pas maintenant, si on n'arrive pas à réindustrialiser le pays, c'est-à-dire faire en sorte que la mondialisation sauvage qui a eu depuis une quarantaine d'années, appauvri les classes moyennes, appauvri les classes populaires, si on n'arrive pas à réindustrialiser notre pays, eh bien, on aboutira à des situations complètement ubuesques où les gens sont obligés de choisir entre remplir leur frigo et remplir leur réservoir de carburant.
J'ai vu Vincent Chauvet opiner du chef.
Oui, c'est vrai que la question du prix de l'essence, il y a d'ailleurs eu un accord entre la majorité présidentielle et les Républicains sur une forme d'aide, alors de blocage de prix en tant que responsable politique plutôt d'inspiration libérale. C'est une idée qu'on retrouve un peu là, de manière étonnante chez les Républicains, plutôt courante chez LFI. Mais en tout cas, il y a eu, plutôt qu'un blocage à 1,50€ des prix, un accord sur des aides à la pompe, direct au litre, qui au final vont être un peu obsolètes, puisque le jeu du marché, qui est ni libre ni non faussé, mais en tout cas, le jeu du marché a fait baisser les prix.
Mais c'est le jeu du marché, justement. C'est peut-être ça qui a fait que les pays producteurs producteurs de pétrole se disent « bon, allez, il faut qu'on reproduise un peu plus, ça ne marchera pas ».
Absolument. Et puis, il y avait aussi de la spéculation, parce que finalement, un certain nombre de producteurs, d'acteurs industriels ont profité de la guerre en Ukraine pour passer des augmentations qui n'avaient rien à voir avec la part de l'énergie ou la part de transport dans leurs produits. Ça a été très bien montré par un certain nombre d'études, notamment, je pense, au BCG qui a chiffré ça de manière assez précise. Si les prix à la pompe baissent, en revanche, l'inflation et le prix des produits de première nécessité continuent d'augmenter, certes moins fort que dans d'autres pays européens. Donc on peut quand même créditer le gouvernement d'avoir, on ne peut pas dire jugulé, parce qu'à 6%, on n'est pas en train de juguler, mais en tout cas avoir une inflation qui est moins élevée qu'en Espagne, qu'en Allemagne, que dans d'autres pays de la zone euro.
Nous sommes dans la moyenne européenne.
On est même plutôt bas par rapport à des économies comparables. Je crois qu'avec Malte, c'est la France et Malte sont dans les deux plus bas. On est plutôt bon là-dessus, mais enfin bon, 6%, les salaires, ils n'ont pas augmenté de 6% cette année. Il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas ce pouvoir de négociation sur les prix et qui vont perdre du pouvoir d'achat clairement. Et là aussi, ça pose la question de comment on fait par rapport à des situations où des personnes habitent assez loin des villes, doivent prendre leur voiture, doivent aussi garder une partie de leur salaire qui ne bougera pas pour des prix qui, eux, augmentent. Et ça promet en tout cas des négociations salariales qui sont indispensables mais qui seront chaudes à la rentrée.
En tout cas, ce qui se passe sur la hausse des prix, sur ces crises, on s'aperçoit qu'il y a toujours un gagnant finalement et que si on essaye d'aller titiller le gagnant, on peut inverser la tendance, mais ça c'est une autre vision de l'internationalisation du monde. Alors Céline Revel-Dumas.
Ah, les derniers sont les premiers paraît-il, hein, mais oui. Non, je pense qu'en matière énergétique, le problème c'est que déjà Emmanuel Macron a fait un revirement de dernière minute pour essayer de sauver les EPR français. Il était temps.
Oui, les petits réacteurs nucléaires.
Oui, exactement. Ouais. Ça montre
pour
aussi
l'autonomie énergétique de la France.
Un grave défaut de planification à long terme du plan énergétique. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus non plus compter sur notre nucléaire, tout simplement parce que la plupart des réacteurs sont en train d'être rénovés, ne sont plus aux normes. Et donc, il y en a beaucoup qui ne sont pas optimisés, dont l'usage n'est pas optimisé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un plan borne en urgence pour essayer de répandre un maximum d'éoliennes sur le paysage.
Et pour éviter d'être dépendant de tous ceux qui font la pluie et le beau temps.
Et dans le même temps, on réouvre les centrales à charbon. Et on importe de l'électricité d'Allemagne qui est produite à partir de centrales à charbon.
Ouais. Vaste sujet. Nous revenons dans un instant avec nos trois vraies voix, vous l'avez compris, qui sont mobilisées ce soir. Ça sera le tour de table dans un instant.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Les vraies voix de ce jeudi avec les deux grands débats que nous vous soumettons, chers auditeurs de Sud Radio. 17h30, l'islamisme va-t-il museler la liberté d'expression? Vous dites oui, vous dites non sur les comptes Twitter et Facebook de Sud Radio. Vous êtes aussi les bienvenus pour intervenir au 0826 300 300. 18h30, autre débat, la rentrée politique. La France insoumise réussira-t-elle à préserver la NUPES des divisions? Là aussi, donnez votre avis, ça sera très intéressant. Et avec nos vraies voix du soir, Céline Revel-Dumas, essayiste, Guilhem Carayon, président des Jeunes Républicains, et Vincent Chauvet, maire modem d'Autun, si jolie ville dans le Morvan. La région, bien sûr. Allez, tour de table.
Apporte-moi seulement de quoi lire.
C'est un bon livre ?
Je sais même plus.
Ça m'embête un peu, ça.
Il a lu un livre dans sa vie et il fallait que ça tombe sur celui-là.
Le tour de table.
De l'actualité.
Alors, lui a déjà lu beaucoup de livres, hein, Guilhem Carayon. C'est un petit clin d'œil de nos amis réalisateurs sur les jingles du tour de table. Guilhem Carayon, vous choisissez aujourd'hui comme thème, donc un thème qu'on a d'ailleurs évoqué cette semaine après le retrait de la force Barkhane. Pourquoi le Mali accuse la France de soutenir les djihadistes devant les Nations Unies? Vous réagissez.
Oui, mon coup de cœur, c'est plutôt un coup de gueule au sujet de cette déclaration du ministre des Affaires étrangères du Mali, le nouveau gouvernement en place depuis quelques mois, qui accuse la France de violer la souveraineté du territoire malien, qui accuse la France d'accointance avec les terroristes dans la zone malienne, qui accuse la France sur un certain nombre de sujets absolument surréaliste. Je crois pas qu'on peut soupçonner la France d'être de connivence avec les djihadistes.
Puisque le but même de son action, c'était la lutte contre les djihadistes.
Non, la réalité, c'est que les forces françaises ont été déployées à partir de 2013, au début de l'année 2013, sous la présidence de François Hollande. dans le cadre de l'opération Barkhane, sur, de manière plus générale sur la zone. Et il y a 58 soldats français qui sont morts depuis... 59 soldats français qui sont morts depuis, 2013, pour évidemment préserver la sécurité des Maliens sur ce territoire, mais aussi pour préserver la sécurité des Occidentaux et surtout des Français, parce que on a évidemment peur que là-bas se développe un terreau favorable au développement du djihadisme et de l'islamisme. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant, cette déclaration, parce qu'elle révèle déjà le changement de partenaire du Mali, du gouvernement malien, qui préfère aujourd'hui négocier avec les Russes.
Wagner, en l'occurrence, le groupe Wagner.
Bon, surtout avec le gouvernement russe. Les Wagner se sont imposés d'eux-mêmes. Je ne crois pas qu'ils soient de mèche avec le gouvernement russe. Enfin, j'espère pas.
Le Mali, historiquement, a toujours été proche à l'époque de l'URSS, par exemple. Il y a toujours eu des liens, d'ailleurs.
En tout cas, depuis 2013, la France était aux côtés du Mali. Le Mali avait d'ailleurs fait appel à nous pour intervenir dans cette zone pour les aider. Et le fait est qu'aujourd'hui, ils nous remercient de la sorte, alors que 59 soldats français sont morts pour eux. Donc moi, je trouve ça absolument surréaliste, et ça montre quand même où on en est du point de vue de notre diplomatie. Je lisais l'interview d'un ancien ministre des Affaires étrangères socialiste, Hubert Védrine, qui disait qu'il faut qu'on change totalement notre stratégie diplomatique. On a aujourd'hui l'intention de préserver la paix dans le monde. On se la joue un peu américain. On croit qu'on va être les nouveaux gendarmes du monde. Ce ne sera pas le cas. On n'est pas capable aujourd'hui d'imposer notre vision droit de l'hommiste partout dans le monde. Je crois que ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être envisageable. Et donc on doit revenir à une diplomatie d'intérêt qui a comme unique ambition, comme unique but, de préserver les intérêts français.
Mohamed Ben Salman, d'ailleurs, le prince héritier d'Arabie Saoudite. C'est ce qui a commencé à se faire.
Il faut bien comprendre qu'on est dans une période de guerre économique, que les États ne sont pas des amis. Les États ne sont pas des ennemis non plus, mais les États ne se font pas de cadeaux. Et donc, on doit préserver nos intérêts à nous. Et je crois, moi, que depuis une quarantaine d'années, la France a eu tendance à se faire cocufier par l'ensemble de nos voisins. On parle de couple franco-allemand, par exemple, en Europe, alors que cette expression même de couple franco-allemand n'existe pas en langue allemande. Ça montre à quel point on s'imagine des relations avec d'autres pays, on croit qu'on est des partenaires privilégiés d'autres pays qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc je crois qu'on doit revoir de A à Z notre stratégie diplomatique et en revenir à une diplomatie d'intérêt.
Alors plusieurs choses. Je vois réagir évidemment Vincent Chauvet, bon, notamment sur le couple avec l'Allemagne. Vous, l'Européen convaincu, vous avez bondi, j'imagine.
Oui, ouais. On ne peut pas remettre en cause notre partenariat très fort, et il y a un mot allemand, hein, Deutsch-Französische Partnerschaft, c'est l'alliance franco-allemande.
Gutenabon.
Voilà, et quand un chef d'État est élu ou chef de gouvernement, la première visite diplomatique, c'est en Allemagne réciproquement. En revanche, je ne sais pas s'il faut revoir notre diplomatie, être complètement pragmatique ou cynique, ou simplement avoir une stratégie d'intérêt. Le rôle de la France dans le monde aussi, et dans un certain nombre de pays, y compris africains, c'est de porter cette voix universaliste, cette voix des droits de l'homme, du pays des Lumières. Je pense qu'on est attendu aussi là-dessus, que ce soit sur la francophonie, que ce soit aussi sur les négociations climatiques, d'avoir un rôle de leadership. En revanche, et là il y a un débat très intéressant qu'il faudra avoir avec la représentation nationale, c'est sur notre doctrine d'emploi des forces armées. Il y a eu des auditions qui ont été partiellement publiées des chefs militaires, un certain nombre de généraux devant le Parlement, et les commissions parlementaires, pour savoir est-ce qu'on est capable justement de faire ces opérations de maintien de la paix. Est-ce que notre armée est dimensionnée pour ça? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que notre armée est dimensionnée pour des guerres de haute intensité? Peut-être, peut-être pas. Avec quels ennemis? Quelle est aujourd'hui notre doctrine militaire, et comment on doit construire dans le cyber, la cyberdéfense, dans les moyens conventionnels, dans les canons César, etc., notre armée de demain? Et c'est là où il faut réfléchir, parce que les investissements militaro-industriels qu'on fait maintenant, c'est ceux qui vont déterminer notre stratégie d'intervention et, in fine, notre diplomatie dans les 15 ou 20 prochaines années.
Céline Revel-Dumas, je reviens sur l'analyse de Guilhem Carayon, qui dit qu'on s'est fait cocufier sur place. Alors, est-ce qu'on accuse la victime ou l'agresseur ? C'est-à-dire, celui qui a cocufié l'autre, c'est quand même le Malien, mais j'ai l'impression que Guilhem dit que c'est la victime, la France, qui est à l'origine de cela.
Alors, le mot est, selon moi, un peu fort, parce que effectivement, un pays ne doit pas être fidèle éternellement à un autre. Tout pays est indépendant. En revanche, effectivement, la France a payé une dette au Mali, donc qu'il conviendrait d'honorer. Malgré tout, ça en dit long sur le jeu qui est en train de se jouer dans ce pays, et notamment plus au niveau de... Ça en dit long sur la redéfinition de la globalisation. C'est-à-dire qu'on voit que la Russie et aussi la Chine, finalement, sont peut-être un peu derrière tout ça. C'est-à-dire, c'est pas anodin qu'un chef d'État s'exprime aussi clairement contre la France. Déjà, c'est une rupture totale dans la tradition aussi. Il y a des liens France-Afrique qui ont été très forts pendant des années.
Très et là, fort et très nocif aussi, parce qu'il y avait l'impression d'être face à son colonisateur en permanence.
Non, quoi. Mais peut-être, au-delà du jugement moral, en tout cas, ils ont été très forts. Aujourd'hui, effectivement, le Mali n'a pas peur de porter devant l'Union européenne, c'est-à-dire que c'est comme si la France, qui était dans justement la définition de ses principes, se trouvait accusée elle-même de mettre à mal ses principes. Donc en fait, la Russie, c'est la Russie qui est aussi potentiellement derrière tout ça, est en train d'aussi essayer de décrédibiliser la France et de décrédibiliser les puissances occidentales dans le cœur même de ces institutions. Donc c'est intéressant, d'autant que c'est la Chine qui va déposer la motion de censure, je crois, au Conseil de sécurité.
Très intéressant, c'était le tour de table de Guilhem Carayon, donc sur le départ des troupes françaises du Mali. Alors, certaines troupes restent bien sûr dans la zone du Sahel, notamment au Tchad, au Burkina Faso et puis au Niger. Dans un instant, le débat de 17h30, l'islamisme va-t-il museler la liberté d'expression ? Vous donnez votre avis sur le compte Twitter, à tout de suite.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Nous y sommes, le premier débat de 17h30. L'islamisme va-t-il museler la liberté d'expression ? Nos vraies voix ce soir sont l'essayiste Céline Revel-Dumas, le président des Jeunes Républicains Guilhem Carayon, et puis le maire modem de la ville d'Autun, Vincent Chauvet. Allez, c'est parti pour le débat.
Les vraies voix Sud Radio.
À quoi te sert d'avoir un nom ? Pourquoi ce feu se tonnerre ? Au nom de quoi fais-tu la guerre ?
La chanson de Véronique Sanson, qui n'a pas été sans lui poser des problèmes au moment où elle l'a sortie. Encore un exemple, finalement, de ces tensions. Oui, aujourd'hui, les artistes semblent avoir peur de la répression. En ce jeudi, jour de sortie des hebdos d'actualité, la presse française se pose des questions, que ce soit l'Express, l'Obs, Marianne, Le Point, avec ce titre « Ils ne désarmeront jamais, alors ne nous désarmons pas » ou encore « La mort aux trousses, l'islamisme contre la liberté ou le combat qui nous attend ». Écoutez ses propos, Isabelle Adjani, lors de la cérémonie des Césars en 1989.
Les êtres humains sont plus coriaces. Ils peuvent douter de tout, même de la preuve qu'ils ont sous les yeux. Pendant qu'ils s'endorment, qu'est-ce qui se passe derrière le quinquet fermé ? Les anges, quand il s'agit de volonté, ils n'en ont pas beaucoup. La volonté, c'est de ne pas être d'accord, de ne pas se soumettre, s'opposer. Salman Rushdie, écrivain, verset satanique.
C'était en 1989, la cérémonie des Césars. La fatwa vient d'être lancée par l'Iran à l'encontre de Salman Rushdie. Elle a déclaré récemment à l'Express, Isabelle Adjani, « Aujourd'hui, je ne pourrai plus citer les versets à moins de mettre volontairement ma tête sur le bio. » Pour en parler, notre grand témoin, que je remercie d'être avec nous très chaleureusement, Malik Bezour, essayiste, spécialiste de l'islam et de l'islamisme, auteur de « Ils ont trahi Allah » qui sortira en poche en septembre prochain. Bonsoir Malik.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. On vient d'écouter ces propos, alors qui ont été ressortis hein, à cette occasion, une semaine après l'agression dont a été victime Salman Rushdie. Les artistes prenaient la parole en 1989, dans les années 90. Ils la prennent visiblement un peu moins. Vous le sentez ? Il y a une pression encore plus forte ?
Oui, forcément, parce que certains artistes ont peur d'offusquer, premièrement, et d'autres peuvent avoir peur des conséquences, je veux dire, pour leur sécurité, parce qu'aujourd'hui, on sait, il y a une réalité qui est que nous avons des exaltés, des extrémistes, que j'appelle des islamopathes, qui sont prêts, à commettre des actes complètement insensés, extrêmes, qui nous dépassent. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un phénomène nouveau qui n'existait pas dans les années 50, 60, 70, 80. C'est récent, c'est la conséquence d'un long processus, j'allais dire de wahhabisation des esprits, c'est-à-dire la diffusion du wahhabisme par l'Arabie saoudite pendant plus d'un demi-siècle, avec les conséquences aujourd'hui qui sont catastrophiques pour le monde musulman et pour le monde entier, parce que nous avons une armée d'islamopathes tantôt organisés en structure et en groupe terroriste, hein, c'est le cas de Daesh, de Boko Haram, etc., ou alors en individus isolés qui vivent ici et là, en Europe, et qui spontanément peuvent commettre un acte complètement extrême. Et cette réalité-là, forcément, les artistes l'intègrent. Bon. Et donc,
Alors, Salman Rushdie était donc placé sous protection policière depuis 33 ans. L'écrivain a été violemment agressé au couteau par un homme de 24 ans, revendiquant son attachement à cette fatwa. C'était il y a une semaine, je vous le rappelle, aux États-Unis, alors qu'il tenait une conférence. Il vivait tant bien que mal l'enfer d'une protection permanente, enfer que vivent certains en France. C'est le cas de Zined El Razoui, tout simplement, l'essayiste franco-marocaine visée par une fatwa pour avoir travaillé avec le magazine Charlie Hebdo, écoutez-la.
Mon quotidien ressemble au quotidien d'une personne confinée. Toutes les sorties doivent être organisées. L'interdiction formelle de prendre les transports en commun. Et puis, il y a aussi un souci d'intimité, naturellement, et de liberté.
Vincent Chauvet, l'une de nos vraies voix. Est-ce que c'est acceptable ? Non, en France, évidemment. Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il en soit différent ? Non, les protections de la sorte, et elles vont peut-être aussi se renouveler. C'est insupportable.
C'est vrai que c'est difficile d'entendre des témoignages comme ça d'intellectuels, d'écrivains, de journalistes, de poètes, de romanciers qui sont poursuivis pour leurs opinions et pour leurs critiques de tel ou tel courant de pensée, de telle ou telle religion. N'oublions pas également qu'il y a un an tombait Kaboul et qu'on a un pays entier qui applique ce genre d'intimidation ou d'assassinat et où on ne peut même plus être journaliste, on ne peut même plus être article, on peut à peine être artiste, on peut à peine être femme. C'est donc en Afghanistan.
Avec le régime des talibans.
Absolument. Et où un certain nombre de promesses faites à la communauté internationale. On revient sur notre débat sur la diplomatie française et l'engagement militaire. Il y a eu un désengagement total des Américains, de la coalition là-bas, et on a un pays qui est devenu complètement sous la coupe de fanatiques et d'islamistes. On peut aussi faire un parallèle qui n'est pas forcément choquant, mais avec d'autres personnes qui, pas plus tard que cette semaine, ont été menacées de mort à partir de leurs opinions, de propos, par d'autres personnes. Je pense par exemple au porte-parole des sapeurs-pompiers de France, Éric Brancardi, qui a été menacé de mort parce qu'il s'est prononcé contre la réintégration des antivax. Le fait d'être antivax est une opinion respectable. La plupart des antivax sont des gens d'ailleurs très paisibles et pacifiques.
J'ai pas l'impression. Hein. Dès qu'on parle de ça, moi je me suis fait incendier l'autre fois, je sais pas pourquoi.
Il y a quelques manifestants. Ouais. Quand
mais
on voit
pas,
les gens manifester,
maladif, hein,
certains. Je pense que quand même la plupart sont des gens normaux, sincères et qu'ils croient dans leur doctrine anti-vaccin, mais que derrière il y a des fanatiques extrémistes qui vont jusqu'à menacer de mort un pompier, un porte-parole de la Fédération des pompiers qui exprime une opinion qui elle aussi peut être défendue, contestée, mais qui ne mérite pas d'être, d'avoir ce sorte de fatwa numérique. Donc on voit que si on critique les anti-vax, si on critique l'islamisme, que ce soit en France, aux États-Unis, eh bien aujourd'hui on peut être la cible de fous augmentés par les réseaux sociaux qui vont jusqu'à passer à l'acte. C'est inquiétant pour nous, responsables politiques, pour les journalistes, pour les intellectuels, pour les artistes, de savoir si on pourra continuer à avoir une liberté d'expression sans risquer sa peau.
Donc vous vous dites finalement que c'est encore plus général que le seul problème de l'islamisme. On entend bien ça. J'aimerais avoir les réactions de Richard qui nous a appelé au 0826 300 300. Vous habitez Toulouse. J'en profite pour vous dire bonsoir Richard, hein, merci d'intervenir.
Oui, bonsoir à vous.
J'en profite pour vous dire, donc pour l'instant, vous dites à 81% sur le compte Twitter de Sud Radio que oui, l'islamisme va museler la liberté d'expression. C'est fort, ça veut dire qu'on baisse les bras. Vous en pensez quoi, Richard ?
Ben moi, je rejoins un peu votre intervenant, en fait, que c'est un problème plus large que les extrémistes religieux qui peuvent agir. Je pense qu'on a un problème plus large de cohésion et de décohésion. Lorsqu'on cultive la décohésion, lorsqu'on génère des clivages très forts, ben on peut arriver à ce type de comportement, que ce soit avec les anti-vax ou avec des réactions des gens qui pratiquent l'islam de manière rigoriste et qui parfois se sentent très blessés par certaines choses. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il faut vraiment que la République elle se pose une question. On va dire nos préceptes, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Et quand on a des communautés qui cultivent le séparatisme indirect, c'est-à-dire par exemple qu'on fait pression sur les femmes pour qu'elles ne puissent se marier que dans la communauté, et je dis plusieurs communautés, hein, je pense
de chrétiens
pratiquants qui imposent ça aussi.
De chrétiens, de juifs, toutes les religions,
on détruit des ponts qui peuvent se créer entre ces communautés. C'est lorsqu'on a des enfants, des petits-enfants qui sont intercommunautaires, on apprend à connaître l'autre communauté et par rebond on crée des liens et on crée de la compréhension. Voilà, moi je pense que le gros travail doit se faire là et c'est surtout avec ça qu'on évitera le plus grave. Le plus grave, c'est des troubles qui ressembleraient plus à de la guerre civile, parce qu'on a trop de communautés qui marchent l'une à côté des autres. C'est jamais bon. Voilà.
Merci Richard. C'est plein de sagesse et tout le monde vous écoutait avec beaucoup d'attention. Je vais bien sûr donner la parole à nos autres vraies voix, mais je profite de ce témoignage de Richard pour aller voir tout de suite Malik Bezou, notre grand témoin. Quand il parle de la communauté, finalement, sur notre thème, l'islamisme, hein, qui est bien. Évidemment, et montré du doigt suite à ce qui s'est passé concernant Salman Rushdie. Est-ce que finalement c'est une affaire aussi de ceux qui font partie de ce qu'on peut appeler une communauté, mais qui doivent reprendre la main pour en extraire les extrémistes ?
C'est très compliqué. D'abord, il faut bien savoir que il est difficile de parler de communauté musulmane, tant en
c'est
France,
ça.
Cette composante de la société française est hétérogène. Moi, autour de moi, je connais des gens qui sont dans la dévotion, qu'on décrirait clairement comme salafisant, mais absolument non violent, mais extrêmement pieux, etc. J'ai autour de moi des gens qui sont totalement athées, d'autres qui sont même issus de familles musulmanes, mais en détestation de l'islam. Donc, la communauté musulmane de France, c'est pas du tout un bloc figé, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et très souvent, et d'ailleurs, ce qui rend très compliqué la chose, c'est que on peut même difficilement parler d'islamisme, parce que à la limite, si on parlerait d'islamisme pour décrire le comportement de la personne, enfin de ces personnes qui peuvent passer à l'acte, ça serait à la limite plus simple, parce que l'islamisme est organisé. C'est typiquement des groupes politiques, etc. Par contre, très souvent, dans les cas que l'on observe en France, ces individus qui prennent un couteau, qui prennent une voiture, qui foncent sur des gens, c'est des individus qui n'appartiennent à aucune structure. Ils agissent de leur propre chef, ont été influencés par des extrémistes, ils se sont radicalisés via les réseaux sociaux, mais ils n'appartiennent pas à des structures organisées de type islamiste. C'est souvent des individus qui ont d'ailleurs parfois même une pratique absolument pas rigoriste. Donc c'est très compliqué. Nous sommes face à une problématique complexe, éminemment complexe.
Là encore, un témoignage très sage, très enrichissant. Réaction autour de la table de nos vraies voix. Céline Revel-Dumas, l'essayiste que vous êtes, donc qui est amenée à vous exprimer et qui peut-être censée aussi sentir une espèce de censure à certains moments.
Oui, moi ce qui me gêne, en tout cas je rebondirai sur les propos de Vincent Chauvet à cet égard, c'est vrai que je ne peux pas mettre dans le même sac les anti-vaccins et ceux qui s'acharnent contre l'islamisme, hein. C'était ça votre propos, je crois. En réalité, il y a quand même une religion et un malaise en France, c'est-à-dire que les anti-vax sont très critiqués. En revanche, on a beaucoup plus de difficultés à porter des propos très clairs sur une religion qu'est l'islam.
Oui, sachant que les anti-vax, jusqu'à présent, n'ont tué personne. Ils ont menacé, mais ils n'ont tué personne.
Non, il ne s'agit que d'eux-mêmes, en l'occurrence. Et ça change tout, parce qu'effectivement, on a l'impression quand même que, même de la part de l'État ou de certaines institutions religieuses, l'islamisme est critiqué, certes, mais à demi-mot. Or, il n'y a pas de point sur la table qui est tapé contre l'islamisme. Et d'ailleurs, ça dessert la religion islam en elle-même. C'est-à-dire que, là, par exemple...
Oui, ce que dit Malik Bezous, à savoir qu'il y a des gens qui souffrent de cela parce qu'ils ne pensent pas la même chose, sont stigmatisés.
Et quel dommage, finalement, que la communauté musulmane ou que les prélats musulmans... Les imams, ou le recteur de la Grande Mosquée de Paris, par exemple, on ne l'a pas beaucoup entendu... Ne soit pas extrêmement clair et extrêmement ferme sur ce qui vient de se passer et sur les fatwas, etc.
Guilhem Carayon.
Sur les responsables politiques qui nomment à moitié les choses sur les questions d'islamisme, vous avez complètement raison. Moi, je me souviens de plusieurs ministres qui parlaient d'islamisme radical, comme s'il y avait un islamisme modéré. La situation qu'on connaît depuis une dizaine d'années, elle est d'autant plus tragique qu'on est le pays, la France, de la liberté d'expression. C'est un juriste français qui a été membre du Conseil d'État, René Cassin, qui a écrit en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. On est le pays de la liberté d'expression par nature. Et moi, je crois que l'islamisme par nature également, c'est un totalitarisme qui empêche la liberté d'expression, parce que l'islamisme ne permet pas la critique de l'islam. Il y a eu des débats ces dernières semaines, ces derniers mois, sur la notion d'islamophobie. J'ai lu un bouquin cet été, celui d'un professeur d'université à Sciences Po Grenoble, à l'UEP de Grenoble, Klaus Kinzler, qui a été d'ailleurs interrogé sur votre radio, et qui disait que lui, il avait subi une fatwa dans son IEP, tout simplement parce qu'il avait refusé de mettre sur le même plan la notion d'islamophobie avec la notion de racisme et d'antisémitisme. Enfin, pardon, mais l'antisémitisme, c'est le siècle dernier 6 millions de morts. L'islamophobie, elle a tué que ceux qu'on accuse d'être islamophobes. Donc moi, je comprends pas qu'on puisse mettre sur le même plan ces notions. Et j'ai l'impression que l'islamophobie, ça fait partie d'une stratégie des islamistes, d'infiltration de la société. D'ailleurs, c'est un mot, l'islamophobie, qui a été inventé par l'ayatollah Khomeini en 79. Cette notion, elle a été inventée pour empêcher toute critique de l'islam. Alors qu'en France, on a le droit de critiquer une religion. On a le droit de critiquer l'islam, on a le droit de critiquer le christianisme. Et je crois que les islamistes doivent apprendre à comprendre que nous, en France, on a cette liberté d'expression. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique assez forte pour montrer qu'on tient à cette liberté d'expression.
Mais d'ailleurs, tout l'historique qu'on a en matière d'attentats en France, de meurtres, d'assassinats, c'est gravissime. On est encore là. Quoi.
Pour conclure, et encore une fois, mille merci Malik Bezoud d'être avec nous. Sur les mots, peut-être conclure qu'un musulman n'est pas islamiste. L'inverse, effectivement, l'est. Oui.
Alors, juste une petite précision historique. J'entends très souvent ce discours disant que l'islamophobie est un terme qui a été inventé par les islamistes. C'est un peu plus compliqué que ça. Le terme islamophobie apparaît dès les années 1925, dans les écrits d'un peintre français converti à l'islam et il dénonce, ses compatriotes qui ont une perception négative, trop négative de l'islam. C'est un peintre connu dont j'ai oublié le nom. justement. Donc, le terme islamophobie, dire que c'est une invention des islamistes, c'est plus compliqué que ça. Il peut avoir un usage disproportionné de ce terme pour créer un sentiment de culpabilité, alors même que la critique de la religion est nécessaire et fondée. Mais je reviens aussi sur un autre point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une très grande difficulté par rapport à la théologie musulmane, et je le dis en tant que... appartenant à un groupe progressiste de l'islam. Je prends par exemple la fatwa du grand recteur saoudien, grand théologien Mohamed El-Mounajid, qui en 2008 sort une fatwa pour condamner Mickey. Et en 2015, il réitère pour condamner les bonhommes de neige. En disant que toutes ces créatures-là sont le péché, c'est l'incarnation du mal, du diable. Donc, ce que je veux dire, et ce théologien extrêmement important de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas un islamiste, c'est un ultra-conservateur wahhabisé. Vous comprenez bien que son discours va se diffuser dans le monde musulman et chez les esprits un peu faibles, induire des comportements qui peuvent être complètement extrêmes. Alors vous imaginez le blasphème, la caricature du prophète peut créer chez des individus plus ou moins équilibrés, ou en tout cas fanatiser des comportements justifiés par des fatwas émises par des grands théologiens, des grands recteurs, eux-mêmes ultra-conservateurs. Donc,
merci.
C'est compliqué.
Merci beaucoup, Malik Bezour, pour nous avoir éclairé. Il y avait encore tellement de choses à dire, mais on doit avancer très très vite. Vous êtes donc à 81% à dire oui, l'islamisme va museler la liberté. Si ça peut tenir en 10 secondes, Vincent Chauvet.
Simplement pour dire que s'il y a pour certains responsables politiques une difficulté à cibler l'islamisme, elle n'est pas dans le gouvernement, pas dans la majorité et pas avec le ministre de l'Intérieur, dont on a vu les efforts pendant tout cet été pour expulser des imams radicalisés, faire fermer les mosquées. Et la loi terroriste vient d'être promulguée.
Je le comprends, mais c'est lui qui parle d'islamisme radical.
Les contenus terroristes qui seront retirés en une heure sur les plateformes, ça c'est du concret.
On se souvient de la loi sur le séparatisme où l'islamisme n'avait même pas été mentionné.
Vous en avez tous profité de mes 10 secondes. Au total, ça fait 40. Allez, on continue.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Ils sont là, les trois vraies voix, Céline Revel-Dumas, Guillaume Carayon et Vincent Chauvet. Chacun a un questionnaire. Le Monde rappelle aujourd'hui la réussite de l'économie irlandaise. Oui, des pays de l'Union européenne fonctionnent bien. Vincent Chauvet, ça sera pour vous ce questionnaire. La marque Jeep arrête ses lignes de production thermique et parie sur l'électrique. Ça sera pour vous, Céline Revel-Dumas. Et puis, nous allons commencer avec la Turquie, médiateur confirmé du conflit en Ukraine. Rencontre Guterres, Zelensky, Erdogan en ce moment, c'est pour vous Guilhem Carayon, musique. Ambiance, la Turquie. Attention Guilhem, vous êtes prêt? Vous répondez tout de suite, si vous ne l'avez pas, les deux autres peuvent donner la réponse et prendre le point. Top. De quel empire la Turquie est-elle le berceau?
Ottoman.
Ottoman, un point. Quelle est la monnaie de la Turquie? Vous ne l'avez pas.
La livre turque.
La livre turque, c'est pour Vincent Chauvet. Quelle est la plus grande ville de Turquie?
Istanbul.
C'est bon, deux points. Qui est le fondateur de la Turquie? Vous ne l'avez pas.
Mustafa Kemal Atatürk.
Atatürk, c'est plus rapide, il est très très fort, Vincent Chauvet. Sur quel continent précisément se trouve la Turquie?
En Asie.
Les deux. Europe et Asie.
Europe et Asie, c'est pour Vincent. Oui, les deux, justement, il y avait piège. Spécialité gastronomique à base de blé dur, pré-cuit à la vapeur. De quoi s'agit-il?
Boulgour.
Oui, vous l'avez, très bien. Trois points, vous êtes égalité tous les deux. Le détroit qui relie la mer Noire et la mer de Marmara en Turquie. Le détroit de...
J'ai des vieux souvenirs de...
Vous ne l'avez
Bosphore
pas.
Dardanelle.
Bosphore, vous travaillez fort d'ailleurs, si je peux me permettre. Mon cher Vincent Chauvet, ça fait 4-3 et Céline va rentrer en jeu puisqu'on part aux voitures.
Je t'attendrai à la porte du garage.
Moi, je fais rien.
Dans la super moto, chanson de Charles Trenet.
Mais avec l'éclairage...
Attention, Céline Revel-Dumas, vous me donnez la marque de voiture. Top. Marque automobile tchèque. Appartenant depuis 1991 à un groupe allemand, l'automobile tchèque.
Ça commence par un L?
Non, pas du tout. Réponse à Vizivis.
Skoda.
Non, c'est Skoda, c'est pour Vincent Chauvet. Marque française, 9 fois championne du monde de rallye avec Sébastien Loeb.
Peugeot?
Non, Citroën.
Citroën, c'est pour Guilhem. Là, les deux, c'est du coup pour coup. Hein.
Pas très calé, voiture.
Attention, constructeur japonais installé dans la ville du même nom. Constructeur japonais installé dans la ville du même nom.
Tokyo ?
Non, Tokyo, c'est pas un constructeur.
Nissan ?
Non.
Honda ?
Non, c'est Toyota. Osaka. Vous aurez tout essayé. Marque de luxe britannique située à Goodwood.
Jaguar ?
Non, c'est pas ça.
Rolls-Royce.
C'est Rolls-Royce, c'est Vincent. Et marque franco-italienne disparue en 1980, célèbre pour son modèle 1000. Bah tiens.
Simca.
Simca, c'est pour Vincent. Et puis, constructeur américain qui a fait les beaux jours de la région de Détroit. Constructeur américain.
GM, General Motors ?
Non.
Qui l'a ? Ford.
Ford, c'est pour Guilhem. Et puis, marque russe,
non,
d'abord nommée...
Non, là.
Marque russe, d'abord nommée Vaz, V-A-Z. La marque russe, c'est...
Lada.
Lada, c'est donc pour Vincent. Et on arrive au dernier pour
c'est
Vincent, les pays de l'Union européenne. Alors, pour l'instant, Vincent, vous avez 8 et Guilhem, vous avez 5.
Et moi, s'il vous plaît ?
Zéro, je ne voulais pas le dire. Je vous donne le pays, vous me donnez la capitale. Là-dessus, je sais, vous pouvez faire un carton. Si jamais vous ne l'avez pas, les autres, vous intervenez. Top, c'est parti. Capitale du Danemark.
Copenhague.
C'est bon. Capitale de la Lituanie.
Vilnius.
On lui donne le point.
Allez, on lui donne à Guilhem. Mais laissez-le quand même répondre. Capitale de la Slovénie.
Ljubljana.
Ljubljana, c'est bon. Capitale de la Roumanie.
La Roumanie, c'est Sofia.
Non, vous l'avez pas.
Bulgarie, c'est Bucarest.
Bucarest. Oui, ça va être très très serré jusqu'au bout. Capitale de Malte.
La Valette.
C'est bon pour vous, Vincent. Capitale de l'Estonie.
Tallinn.
Tallinn, vous avez fait le break. Et enfin, le Portugal.
Lisbonne.
C'est Lisbonne. Victoire super Lisbonne. De Vincent Chauvet devant Guilhem Carayon et Céline Dumas qui a accepté de prendre le seul questionnaire dont personne voulait sur les voitures. Il a gagné, il est le champion, Vincent Chauvet. Dans un instant, les infos.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Vous êtes les bienvenus pour cette nouvelle heure des vraies voix. Notez votre rendez-vous à 18h15. Nous irons faire le bilan des intempéries en Corse où nous attend Jean-Félix Acquaviva, le député. 18h30, vous aurez votre grand débat très politique ce soir. La France insoumise réussira-t-elle à préserver la NUPES des divisions ? Très politique, nous avons aussi des vraies voix politiques avec Guilhem Carayon, le président des Jeunes Républicains, Vincent Chauvet, maire Modem d'Autun, et puis l'essayiste Céline Revel-Dumas. Tiens, d'ailleurs, on approche du tour de table. Céline va être sollicitée.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table.
Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste.
Je suis Darmanin.
Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent.
Le tour de table.
De l'actualité.
Alors, fatigant d'être intelligent, oui, mais là, on va devoir l'être parce que, évidemment, elle ne va pas nous louper là-dessus, Céline Revel-Dumas, elle qui est essayiste. La rentrée littéraire, très
oui,
important.
Oui.
Ça fait du bien un peu parce que, bon, forcément, il y a
de quoi se
réjouir.
Je me suis dit que c'était un sujet été, c'est important de lire.
Voilà.
Et surtout, j'aimerais sonner une petite sonnette d'alarme.
Oui.
Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les livres se font de plus en plus rares, en tout cas les romans. Parce qu'à la rentrée littéraire, il y aura seulement 490 romans qui seront attendus. Alors que, et c'est 31 de moins que l'année dernière et 156 de moins qu'il y a 10 ans.
Mmh.
Ça veut dire qu'en fait, il y a de moins en moins de publications
ouais.
et il y a aussi de moins en moins de lecteurs. Et c'est ce qui est ennuyeux.
Et ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'essais aussi. On est plus sur...
Non, pas forcément.
Non,
absolument pas. Et les ventes de livres sont en baisse quasiment en baisse constante. Et de plus encore depuis le début de l'année, il y a 11% de ventes en moins d'après l'Observatoire du syndicat de la librairie française. Et en plus, François Bunuel a quitté la grande librairie. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout paravolo en ce qui concerne la sphère littéraire. Donc, il y a plusieurs raisons à ça. Finalement, il y a le confinement, parce que les Français n'ont qu'une envie, c'est de s'aérer. Mais aussi la...
En même temps, on peut lire à l'extérieur. Hein.
Oui, mais on ne peut pas visiter et lire en même temps. La hausse des prix du papier aussi, qui a à cause de la guerre en Ukraine. Et en plus, les éditeurs sont devenus très prudents parce que les Français achètent moins un livre, ça coûte 20 euros. C'est quand même assez cher en moyenne, hein, donc c'est quand même assez cher. Donc ils font très attention. Donc même s'il y a des grands grands auteurs là, qui sont publiés, Despentes, Amélie Nothomb, Yann Moix.
Elle en ressort encore, Amélie Nothomb, c'est tous les ans, à la même heure.
Je crois qu'il s'appelle Cher époque. Connard, si, ouais. si je ne me trompe pas.
Ouais. Voilà, c'est habituel. Pensez à moi en me regardant, je ne sais pas.
Non, non. Bien sûr que non. En tout cas, c'est vrai que moi, je tiens à rappeler aux Français, à ceux qui nous écoutent, que lire, c'est extrêmement important. C'est un moment où, qu'on a pour soi, ça permet aussi de nous faire du bien. C'est indispensable pour la mémorisation. Ça joue quand on parle de plus en plus de maladies dégénérescentes. Lisons, oui. C'est un des médicaments contre cela.
Accessoirement, il y a une autre maladie qui est la déperdition de la langue française. Donc là, ça peut aider aussi.
Mmh. Voilà. Donc en fait, j'aimerais redire. D'ailleurs, il y a certains hommes politiques qui l'ont fait, hein, puisque je crois qu'Édouard Philippe a écrit un livre qui les hommes qui lisent, je crois.
Ça, c'est à vous de nous le dire. Hein. Moi, je.
Donc voilà. Donc c'est vrai que c'était un coup de gueule pour moi, faut dire à quel point c'est important de lire et que finalement la France se définit aussi en tant que nation littéraire et que là c'est l'occasion en été de prendre le temps de lire.
Guillaume Carayon, vous nous avez dit, hein, vous avez lu sur la question des romans, moi ça m'a interloqué finalement. Aujourd'hui les romans, les histoires, ça nous vient de partout, de la télévision. En revanche, on va chercher l'information, le contenu, l'apprentissage dans un livre. Donc le roman, l'avenir, point d'interrogation. Hein.
Ouais. Mais je crois qu'en fait, le problème, c'est qu'on est rentré dans une culture de l'immédiateté. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut obtenir une information en 3 clics, en 15 secondes, sur un smartphone. Et le problème, c'est qu'on a perdu la notion de temps long. Avant, on lisait, ça prenait du temps, on se prenait une heure pour soi pour lire, et ça avait 1000 vertus. Évidemment, celle de la mémorisation, celle du langage, du vocabulaire. On s'exprime 1000 fois mieux quand on a lu. Quand on a des mots qui nous viennent en tête tout de suite, on utilise l'expression la plus appropriée. Donc moi, je crois que c'est un drame pour ma génération qui a été élevée au smartphone, qui a été élevée à la culture de l'immédiateté.
Génération millénium, vous, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Moi, je suis né en 1999, donc à un an d'écart.
Vous n'avez pas vu Zidane gagner la Coupe du Monde ?
Malheureusement,
non. Ah non !
Mais j'ai vu 2018.
Mais c'était bien, hein, c'était bien.
Non, mais ma génération ne lit plus. Et je crois que c'est tragique parce qu'on a maintenant du coup des jeunes qui s'expriment avec un vocabulaire beaucoup plus pauvre. Avec, il y avait une enquête qui montrait qu'il y avait 20% des jeunes qui s'exprimaient avec seulement 400 ou 500 mots.
Ouais. C'est la culture SMS.
C'est une pauvreté de langage qui est spectaculaire et qu'on doit tout de suite stopper. Et ça passe par la lecture.
Vincent Chauvet.
Oui, une petite note d'espoir dans cet océan morose. C'est le carton de l'année en librairie. Ouais. Le Monde sans fin de Jean Covici et Blin, qui n'est pas à proprement parler un roman.
C'est pas un roman.
Qui est une bande dessinée, mais intelligente, avec beaucoup de textes, avec beaucoup de pages. Et aussi, il faut le dire pour ceux qui ne l'ont pas lu, les rares qui ne l'ont pas lu et qui doivent se précipiter dans leur librairie, sur la transition énergétique, sur le prix du pétrole, sur les énergies renouvelables, sur le monde d'après, le monde sans fin, point d'interrogation.
Quand vous dites une bande dessinée intelligente, ça veut dire qu'il y en a qui ne le sont pas avec
Il y a des bandes dessinées récréatives, mais c'est pour ça qu'il faut peut-être, pour retrouver
on
un
lit
lectorat.
Les autres, nous. Donc
voilà. Mais en tout cas, peut-être que pour retrouver un lectorat, il y a d'autres formats, et que la bande dessinée, ce n'est pas un sous-art, ce n'est pas un sous-métier, et que pour faire passer des messages sérieux, importants, peut-être que le roman a eu son heure de gloire au 19e siècle, peut-être qu'il est un peu sur le déclin. Il y aura d'autres formes d'expression littéraire, peut-être notamment avec un peu plus d'images et de messages, en tout cas politiques et écologiques, pour les années à venir.
Céline Revel-Dumas, les enfants qui réussissent bien à l'école aujourd'hui sont les enfants qui lisent beaucoup ?
Ah ben c'est évident que
bien dans le micro,
la lecture donne, effectivement, comme le disait Guilhem Carayon, un merveilleux vocabulaire. En l'occurrence, ça apporte aussi beaucoup de culture, donc beaucoup de fond. La forme et le fond, tout est dans le livre, évidemment.
Vincent Chauvet, vous qui êtes maire, vous le voyez dans les écoles, les enfants, est-ce qu'ils vont à la bibliothèque municipale ?
Nous, les trois quarts de la mairie d'Autun, depuis 3 ans, c'est la bibliothèque. On a transformé la mairie en bibliothèque, on travaille là-dessus, on voit qu'il y a une difficulté sur la lecture publique. Et en même temps, on est une librairie indépendante, une des rares librairies indépendantes, mais ça continue et qui se développe, qui vient de s'agrandir de l'autre côté de la rue, avec aussi d'autres produits culturels, parce qu'une librairie aujourd'hui, elle ne vend pas que des livres. Et il y a eu un boom, en revanche, il y a un marché qui est en très fort développement, qui peut apporter de manière cognitive quelque chose d'intéressant pour les enfants. C'est le jeu de société qui revient en force. Plutôt que le jeu vidéo, plutôt que Netflix, plutôt que YouTube, le jeu de société, on a une librairie indépendante qui se développe, qui fait des événements littéraires, qui fait un salon du livre et qui vient justement de se développer autour des jeux de société.
C'est parfait, merci pour ce tour de table. Dans un instant, on fait le point sur la Corse. C'est parti.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Les vraies voix ce soir avec Céline Revel-Dumas, Guilhem Carayon et Vincent Chauvet. 18h30, n'oubliez pas, vous pouvez déjà donner votre avis, consultation, compte Twitter, Facebook ou même intervenir au 0826 300 300. La rentrée politique, la France insoumise réussira-t-elle à préserver la NUPES des divisions? C'est la question que nous vous posons. Nous continuons donc notre tour de table. Je vous le rappelle, on doit faire un point sur les dernières informations suite aux intempéries en Corse avec Jean-Félix Acquaviva. Vous comprenez que la liaison est assez difficile. Le député est d'ailleurs très 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 occupé. Donc ce qu'on va faire, on va continuer notre tour de table. Et d'ailleurs un tour de table, cher Vincent Chauvet. Alors on me dit, est-ce que c'est bon ou pas? Allez, on continue le tour de table. Voilà.
Les vraies voix Sud Radio.
Alors Vincent Chauvet, vous vous intéressez aux urgences, parce que j'ai l'impression qu'on ne s'y est plus beaucoup intéressé ces derniers temps, mais n'oublions pas les tensions qui subsistent et avec ce qui se passe en ce moment, que ce soit en Corse, dans le sud, les intempéries, ça explose.
Absolument. Alors, on parlait tout à l'heure du porte-parole des pompiers qui sont au feu, mais les pompiers aussi ont à remplir leur mission essentielle de sauvegarde à la population, de secours à personne. On a été un certain nombre d'employeurs publics notamment. Moi, j'ai 3 pompiers volontaires dans mes effectifs qui sont devenus quasiment professionnels. On les a envoyés à la caserne à plein temps pour qu'ils puissent suppléer ceux qui étaient partis en Bretagne ou dans le sud. Et puis les hôpitaux publics, il y a eu un rapport Braun, juste au début de l'été, en
le disant ministre.
Que c'était compliqué. Il est devenu ministre par la suite, parce que justement, on a vu que c'était quelque chose d'important. Je trouve qu'on en parle un peu moins.
Vincent, je vous interromps justement, mais on est dans le contexte. On a retrouvé Jean-Félix Acquaviva, qu'on remercie vraiment vivement, le député autonomiste de la 2e circonscription de Haute-Corse. On va faire le point avec lui, puis on va revenir sur la question des urgences, parce que nous sommes vraiment dans l'actualité. Bonsoir Jean-Félix Acquaviva.
Bonsoir.
Bon, le bilan, déjà, vous avez les dernières informations. On faisait état, bien sûr, de plusieurs morts sur l'île de Beauté, plusieurs blessés. Je vous écoute sur le bilan.
Écoutez, 5 morts de manière certaine. Évidemment, ce bilan est provisoire. Des dizaines de blessés, dont plusieurs en état grave. Des personnes encore recherchées et disparues. Donc, nous sommes, encore une fois, dans l'état d'un bilan provisoire, dont on souhaite évidemment qu'il ne s'aggrave pas. Mais il faut rester prudent, d'autant plus qu'il y a évidemment les événements de ce soir éventuellement qui peuvent être impactants, puisqu'il faut faire preuve de plus grande vigilance par rapport à ce qui peut se passer dans la soirée. Moi, mes premières pensées vont évidemment aux victimes, aux familles endeuillées, à ces drames humains, et bien sûr aux services d'incendie de secours qui sont à pied d'œuvre sur l'autre Corse et le Corse du Sud, les services routes de la collectivité de Corse, mais aussi évidemment les services de l'État, les services d'EDF, et il faut rendre hommage à l'ensemble de ces services qui agissent maintenant de minute, en heure pour faire en sorte que les choses s'améliorent, pour protéger des vies, pour restaurer l'électricité et évidemment faire preuve de vigilance avec l'évacuation prévue de 4000 vacanciers des habitations légères et campings de Calvi ce soir.
Alors d'ailleurs, donc, Jean-Félix Acquaviva, on va préciser, parce que je pense à tous ceux notamment qui veulent aller en vacances et utiliser un camping. La préfecture de Corse du Sud demande l'évacuation des campings. Les exploitants des terrains de camping situés sur le département de la Corse du Sud doivent procéder sans délai à l'évacuation des occupants accueillis dans des structures légères sensibles au vent. Parce que vous le disiez dans vos propos au début, Jean-Félix Acquaviva, ça ne va pas s'arrêter.
Écoutez, ce qui est prévu, c'est que ça ne s'arrête pas. Alors évidemment, on ne sait pas si l'intensité, même s'il y a des risques importants, sera la même ce soir que ce qui a été ce matin, puisque ce matin, il y avait déjà des avertissements, mais personne ne pouvait prévoir, du moins à l'heure où je parle, de cette intensité, puisque ce qui est étonne, c'est cette intensité. En même temps, évidemment, lorsqu'on corrèle cela au changement climatique qui est sous nos yeux, quand on parle des grands incendies dans le sud de la France, ou même des incendies en Algérie, 38 morts actuellement, on voit bien que nous sommes en Méditerranée, puisque la Corse est en Méditerranée, dans une mer fermée qui se réchauffe plus que dans d'autres mers, puisqu'il y a évidemment une température de l'eau qui est beaucoup plus importante, de 4 à 5 degrés par rapport à la moyenne. Et on voit bien que nous sommes en train de vivre réellement ce que l'on dit en politique publique depuis des années, c'est-à-dire le changement climatique est en train de se passer sous nos yeux, et ça se traduit par des événements de cette intensité-là que nous avons pas vécu de la sorte depuis des années en Corse et dont on s'apprête à les vivre de manière usuelle au bout du compte dans quelques années. Il y a le temps de sauver les gens, il y a le temps d'être vigilant, c'est maintenant, et puis il y aura le temps de l'analyse sur les politiques publiques de gestion de risque, mais aussi d'aménagement, et puis à d'autres échelons pour enfin faire en sorte que l'on appréhende mieux ces questions.
Jean-Félix Acquaviva, alors évidemment le fait que nous soyons en contact avec vous va dans le contraire de ce que je veux dire, mais aujourd'hui physiquement la Corse est coupée du monde, c'est-à-dire il n'y a aucun moyen d'accès en provenance de quelque continent que ce soit.
Alors écoutez, coupée du monde, les choses s'améliorent parce qu'évidemment il y a des services qui se sont mis à l'œuvre et effectivement il y a encore 45 000 personnes, foyers qui sont privés d'électricité. Moi-même, en étant dans un endroit en centre-Corse dans mon village qui a été impacté par la tempête mais de manière moins importante mais quand même dense ce matin, nous avons eu la restauration du téléphone et du portable et de l'électricité vers midi et demi. Donc c'est-à-dire que nous sommes restés quand même toute la matinée coupés. Donc évidemment qu'on voit bien que cet événement fait en sorte de couper la Corse du monde à un moment donné par son impact, par son intensité, et que cela peut se reproduire. Donc ça veut dire que ce sont des questions qui évidemment rebondissent sur la nécessité d'appréhender les situations. Je pense par exemple aux personnes seules et âgées qui n'ont pas forcément d'outils numériques ou de téléphone portable lorsqu'il peut y avoir des coupures et peut-être angoissées, lorsque les personnes sont isolées, parce que la Corse est une population relativement âgée. Donc il y a ces questions-là qui maintenant évidemment font l'objet de nos réflexions, et puis il faudra encore une fois tirer toutes les conclusions au moment opportun.
Merci beaucoup Jean-Félix Acquaviva, député de la deuxième circonscription de Haute-Corse. Merci, bon courage à vous. Nous vous laissons bien sûr à tous vos administrés et on comprend la tristesse qui va avec ces événements et ces informations que vous nous avez données. Mais revenons justement, nous étions en train d'évoquer les urgences. On le voit bien de plus en plus, vous l'avez dit Vincent Chauvet, les pompiers ont été sollicités, mis en avant aujourd'hui, et de plus en plus nos urgences vont être sollicitées et pas armées du tout.
En tout cas, effectivement, la sirène d'alarme a été tirée au début de l'été. On en parle un peu moins, mais on a eu quand même cette période du 15 août où légitimement un certain nombre de personnes, y compris de personnel et de médecins, peuvent être en vacances, et où on a quand même tenu, mais grâce à des médecins, à des professionnels, à des brancardiers, à des sages-femmes qui ont annulé leurs vacances, qui parfois ont laissé partir leurs conjoints et sont restés travailler pour maintenir, même s'il y a eu quelques fermetures, et que de manière
en Bourgogne,
générale...
Votre région, dans laquelle se trouve Autun, enfin Bourgogne-Franche-Comté d'ailleurs, la nouvelle région administrative, est-ce que ça fonctionne? Il y a des fermetures?
Alors, il n'y a pas de fermeture, mais effectivement, il y a des tris où ce qu'on demande au niveau national, c'est-à-dire d'appeler le 15 et d'éviter au maximum de se présenter tout seul aux urgences de soi-même, parce que dans l'absolu, il faut absolument être dirigé par le SAMU vers les urgences. Mais on a vécu des jours un peu compliqués où il n'y avait plus forcément d'ambulance privée, où les pompiers étaient au feu, où les urgences fonctionnaient avec une pénurie de médecins, donc de manière dégradée, et où quand il fallait trouver des personnes pour relever des personnes âgées qui étaient tombées, etc., on a dû faire appel, y compris à des équipes municipales, pour aller à domicile et faire en sorte que les Français aient ces premiers secours. Donc c'est vraiment compliqué. Moi, je voulais rendre hommage à ceux qui ont fait des sacrifices personnels sur leur vie privée et familiale pour que ces services tiennent. Et puis dire que c'est vraiment au-delà des polémiques qu'il y aura probablement à la rentrée et des débats, et on en aura tout à l'heure. C'est important de parler de politique politicienne, mais il y a un sujet majeur, je pense, en tant qu'élu local et président du conseil de surveillance de l'hôpital d'Autun. C'est le système de l'hôpital public aujourd'hui. On l'a dit au début de l'été, et c'est un focus qu'il faut garder, parce que ce système doit être soutenu, amélioré, mieux financé dans les jours, j'allais dire vraiment dans les jours à venir.
Réaction rapide, les deux autres vraies voix, Guilhem Carayon.
Et nous, typiquement à Lavore, jusqu'à il y a encore trois semaines, les urgences étaient fermées la nuit. On parle souvent des déserts médicaux. On dit qu'il y a 6 millions de Français qui vivent dans les déserts médicaux. Nous, à Lavore, on est considéré comme un désert médical. Et donc chez nous, dans notre ville, l'unité de soins la plus proche, c'est pas forcément le médecin, c'est les urgences. Donc quand il vous arrive quelque chose et qu'on est la nuit et qu'il n'y a pas d'urgence à côté de chez vous, vous pouvez prendre 20 minutes de retard pour aller à l'hôpital qui sera le plus proche, plutôt 30 minutes pour aller à Castres. Et la situation, enfin ou à Toulouse plutôt, et la situation est dramatique et des vies peuvent être mises en danger. Donc moi j'ai l'impression qu'on n'a pas tiré les leçons en fait du Covid. On a continué à fermer des lits de réanimation quand le nombre de morts a commencé à baisser. J'ai l'impression que la situation dans l'hôpital public est toujours aussi calamiteuse. On s'est targué pendant des années d'avoir le meilleur système de santé au monde en se disant on met énormément de pognon dans l'hôpital public, donc on doit avoir des résultats exceptionnels, on doit avoir le meilleur système de santé au monde. On s'est rendu compte pendant la crise du Covid que c'était loin d'être le cas.
Ouais. Céline Revel-Dumas.
Oui, il y a un vrai problème au niveau des urgences. D'ailleurs, même François Braun a eu du mal à le reconnaître, le ministre de la Santé. Ouais. Il l'a reconnu tardivement qu'effectivement, il n'y avait pas seulement des limitations d'entrée aux urgences, mais bien des fermetures. Et effectivement, le problème, c'est celui des déserts médicaux. Une des questions qu'on peut se poser, c'est comment remédier à ces problèmes dès lors qu'il n'y a pas d'argent qui est dévolu à ces services d'urgence, parce que c'est vrai qu'il y a eu un plan de 800 millions d'euros il y a 2 ou 3 ans, mais il n'empêche que ça n'est pas suffisant, c'en est la preuve. Et donc, finalement, on a essayé de revenir à une médecine généraliste classique, c'est-à-dire avec des médecins généralistes qui peuvent accueillir les premières urgences et des maisons de santé parfois qui sont intégrées aux services d'urgence pour essayer de pouvoir gérer les patients les moins graves. Parce qu'effectivement, la nuit, le week-end, aujourd'hui et même en journée parfois, il n'y a plus de médecins pour recevoir une pathologie qui n'est pas une urgence mais qui pourtant a besoin d'être prise en charge.
Ouais, ça devient affolant. Merci en tout cas. Voilà, c'était ce quart d'heure là, le point sur la Corse. Et on a une pensée pour nos amis corses et puis aussi les urgences avec cette question évidente soulevée par Vincent Chauvet. Autre question, 18h30, vous êtes conviés, les auditeurs de Sud Radio. Rentrée politique, LFI réussira-t-elle à préserver la NUPES des divisions? À tout de suite pour le grand débat.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Nous y sommes, le grand débat de 18h30 avec nos vraies voix ce soir. Je vous les représente, Céline Revel-Dumas, essayiste, Guilhem Carayon, président des Jeunes Républicains, les Jeunes LR, et Vincent Chauvet, le maire Modem d'Autun, parce qu'il y a des N et des M qui s'enchaînent là. C'est une allitération, comme dirait l'essayiste qui est à ma droite.
Merci de m'attribuer tant de compétences.
Bon alors, débat politique. Évidemment, nous posons de plus en plus la question. LFI prépare ses universités d'été, ça sera la semaine prochaine, à Châteauneuf-sur-Isère, du 25 au 28 août. Nous posons la question, rentrée politique, LFI réussira-t-elle à préserver la NUPES des divisions?
Les vraies voix Sud Radio.
Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens.
Eh oui! C'est drôle, les paroles de Jean-Jacques Goldman. Est-ce que c'est vraiment une famille? Bon, je précise que nous avions notamment convié une représentante d'Europe Écologie Les Verts. Et quand je lui ai dit, ben, on a ce sujet, elle m'a dit, ah bon, mais c'est pas beau ce sujet, là, machin. Et elle nous a fait faux bond peu de temps avant. Voilà. Donc ça montre bien que ça pose problème, cette question. Je vous le disais, les filles préparent ses universités, mais c'est le cas aussi pour le PS, pour Europe Écologie Les Verts et pour le PC. Et on se rend compte en plus que LFI prend les choses en main. Après la rencontre Alexis Corbière-Marlène Schiappa dans Libération hier, le parti de Jean-Luc Mélenchon a invité la semaine prochaine Clément Beaune, le ministre des Transports, Olivia Grégoire, la ministre du Commerce et des PME, et puis l'élu LR de Paris, Rachida Dati, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. On voit bien que LFI veut réfléchir sur les sujets de fond et s'afficher comme le premier parti d'opposition. Fini la théâtralisation des débats, LFI veut affirmer son leadership. Pour en parler, alors lui, il a pris une promotion, parce que hier il était vraie voix et aujourd'hui, il devient grand témoin. Notre polyctologue, Nicolas Corato. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir, Frédéric. Mais c'est un emploi par forfait, si j'ai bien compris. Donc
Non, pas du tout. Non.
Je nuance la promotion.
Non, justement, puisque pour tout vous dire, cette personne Europe Écologie Les Verts était prévue autour de la table en tant que vraie voix.
Voilà, parce que nous, nous voulions équilibrer politiquement. Donc, en revanche, j'avais vraiment demandé à ce que vous soyez là, et je suis très heureux que vous soyez là.
C'est réciproque.
Bon, on est bien d'accord. Là, ces universités d'été des quatre partis, Europe Écologie Les Verts, PS, PC et LFI, eh bien, c'est bizarre, mais tombent le même week-end, au même moment. C'est déjà un problème, non ?
Oui, c'est pas nouveau, c'est pas particulier à cette année. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu imaginer plus de liens entre les universités. Et après ces partis ont toujours considéré qu'ils continuaient à exister, à avoir leur propre agenda. La NUPES n'étant pas un parti en tant que tel, mais un mouvement ou une alliance politique qui a été signée à partir d'un certain nombre de propositions alternatives. Donc oui, ça fait. Mais bon, ça va être un week-end. Enfin, pour les électeurs de gauche, ça va leur plaire. Ça va être un week-end de gauche. Oui. C'est tellement rare, ils pourront profiter.
Bah, c'est-à-dire que comme ils sont censés avoir un faible pouvoir d'achat, il faut se déplacer sur les quatre. Et puis il faut prendre la voiture, du coup. Alors aussi, c'est pareil. Donc ça va pas être facile.
Non,
je vous titille. Nicolas.
Non, mais c'est vrai que vous avez peut-être en tête et en mémoire les grandes universités du temps du grand Parti socialiste à La Rochelle, l'Espace Ancan, etc. Je pense qu'on n'en est plus du tout là. Le seul parti aujourd'hui qui a la capacité peut-être de rassembler très largement des militants, mais aussi, on le voit, des hommes et des femmes politiques d'autres horizons, c'est la France insoumise, pas simplement pour des raisons matérielles, mais aussi parce que la France insoumise est aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le premier parti de gauche. Je ne dirais pas le premier parti d'opposition, parce que, pour le coup, il y a un autre parti qui s'appelle le Rassemblement national, qui me semble mieux placé, notamment en législative, mais en tout cas, la France insoumise est le premier parti de gauche et effectivement est en train d'assurer d'imposer son hégémonie à gauche en ayant clarifié d'une certaine manière la position de la gauche, puisque la NUP, c'est quand même la fin de la social-démocratie dans le camp de la gauche.
Nous allons donc avancer progressivement dans ce débat. Je rappelle la question de base. Vous pouvez réagir, vous, les auditeurs de Sud Radio, compte Twitter, compte Facebook. La rentrée politique, LFI réussira-t-elle à préserver la NUPES des divisions ? Vous répondez, vous pouvez intervenir au 0826-300-300. Mes premières réactions, les vraies voix avec Céline Revel-Dumas. Peut-être une question aussi à Nicolas Corato. Mais déjà une réaction à ce qu'on vient de dire sur le fait que tout le monde organise au même moment, par exemple. Ça sent pas la cohésion.
Non, effectivement, c'est pas le meilleur moyen de se mettre d'accord et en tout cas d'avoir un plan d'attaque politique au sein de l'hémicycle. Parce que c'est là où ça se joue, finalement. La NUPES n'existe pas vraiment au-delà de l'Assemblée nationale. Donc oui, je suis un peu étonnée. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que j'attends effectivement l'avis de notre politologue. En tout cas, c'est vrai que la NUPES a énormément fait parler d'elle, pas en bien d'ailleurs. Et ça aurait été le moment cet été de définir une nouvelle stratégie entre les partis et ils ont l'air de passer à côté.
Alors, il est prévu qu'il y ait des instants NUPES, c'est ça, Nicolas Corato ?
Oui, non seulement il y a des instants NUPES, mais il y a dans chacun des partis des invités, de nombreux invités qui viennent de la NUPES. Peut-être éclaircir un point sur le fait qu'il faudrait que les partisans de la NUP se retrouvent pour préparer l'action politique. Tout ça a été géré le 30 mai dernier, lorsque tous les partis se sont réunis autour d'un programme, et je rappelle quand même dans quel ordre ça s'est fait. D'abord un accord sur le programme, ensuite un accord sur les investitures. Dans ce sens-là, et pas le contraire, ce qui est une nouveauté à gauche et peut-être même à droite. Sur un programme qui comporte 650 propositions communes. Donc je veux dire, aujourd'hui, la NUPES, elle n'est pas en manque de propositions pour travailler à l'Assemblée nationale. Elle n'est pas en manque non plus de travail politique. Ce travail politique, il a été fait, il continue à être fait. Donc, je veux bien qu'on instrumentalise ou qu'on polarise l'attention sur chaque petit signe de division de la NUPES, mais je voudrais juste rappeler qu'avant le 30 mai 2022, on nous assurait que la gauche était morte et qu'elle ne ressusciterait pas d'ici plusieurs années.
Il n'y a pas qu'une seule gauche, hein, Nicolas Corato.
Non, mais il n'y a pas qu'une seule gauche, mais cette gauche-là. Et quelques semaines plus tard, à quoi nous allons assister ? Finalement, nous avons assisté à un succès électoral, même si je pense que les attentes étaient plus importantes à la NUPES que le succès, que le résultat qui a été réalisé. Non seulement un succès électoral, mais aussi finalement, malgré les attaques et la polarisation sur les ferments de division, force est de constater qu'à ce stade, moi je ne suis pas devin, mais à ce stade, non seulement l'alliance tient, mais d'une certaine manière, elle tient aussi certaines promesses d'opposition et d'alternatives à l'Assemblée nationale, si on en croit les sondages et la manière dont les Français, en tout cas de gauche, les sympathisants de gauche, voient les choses.
Alors, réaction, Nicolas, on revient vers vous. Réaction, Guilhem Carayon.
Ce qui est certain, c'est que les dirigeants des partis membres de la NUPES ont bien attendu le sort des élections législatives, le fait d'avoir obtenu 150 députés à l'Assemblée nationale, pour ensuite montrer leurs divergences, leurs points de vue très différents sur notamment un sujet, pour moi, les questions de société. On va le voir à la rentrée à l'Assemblée nationale, puisqu'on va traiter des questions d'immigration, des questions de sécurité. On a quand même un parti dans la NUPES, la France Insoumise, en l'occurrence, qui nous dit « la police tue ». On a ce même parti qui, dont certains responsables accueillent Jérémy Corbyn à Paris. Ce parti est allé manifester en 2019 avec le collectif contre l'islamophobie, le CCIF, qui a depuis été dissous par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Et puis les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la Chine, par exemple.
Les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la Russie, sur la Chine. Il y a un tas de divergences entre tous ces partis-là qu'ils ont cachées dans une seule optique: obtenir des députés à l'Assemblée nationale.
Là, maintenant, ça se voit
parce que bon, ce sera dans 2 ans les prochaines élections, les élections européennes. La France Insoumise parle d'une liste commune. En réalité, les autres partis membres de la NUPES n'ont aucun intérêt. Ils savent qu'ils vont obtenir des députés au Parlement européen s'ils présentent également une liste. Donc on voit bien qu'on a affaire là à la tambouille politicienne. Chaque parti essaye de garder ses parts de marché électoral, chaque parti essaye de garder ses subventions publiques, parce que quand on a des députés, on obtient des subventions publiques, et on en revient à tout ce que les Français détestent, c'est-à-dire la politique politicienne, la tambouille électorale. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment pas terrible pour l'image de la politique.
Guilhem, c'est noté. Juste pour vous informer, quand même, ce qui est le plus important, l'avis de nos auditeurs. Pour l'instant, les auditeurs de Sud Radio disent non à 86%, la France Insoumise ne réussira donc pas préserver la NUPES des divisions. J'aimerais d'ailleurs avoir le point de vue de Baptiste au 0826 300 300, Baptiste de Boulogne-Billancourt. Baptiste, bonsoir. Vous y croyez au fait que la NUPES arrive à continuer sans exploser à cause des divisions ?
Ben oui, bonjour, bonsoir à tous. Moi j'y crois parce que je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Nicolas, notamment sur le fait que la concordance des dates des universités d'été, c'est pas nouveau. Si vous regardez les années précédentes, ça tombe toujours le dernier week-end d'août pour tout le monde et tous les partis de gauche, à part le PS. Si vous regardez la programmation, je vous invite à le faire, vous verrez qu'il y a beaucoup d'élus, Europe Écologie Les Verts par exemple, qui sont invités à débattre aux universités de la France Insoumise, et l'inverse est vrai aussi. Et je dirais que jusqu'à maintenant, c'est M. Carayon, je crois, qui disait que la NUPES avait été bien présente sur les questions sociales et sociétales jusqu'à maintenant, et il a oublié de préciser que son parti a voté absolument contre toutes les propositions en faveur de l'augmentation du pouvoir d'achat des Français.
Parti LR,
Parti LR, tout comme le Front National, qui a aussi voté contre l'augmentation du SMIC, contre l'augmentation des retraites, contre l'augmentation qui était prévue par...
Allez demander à un patron de PME s'il veut l'augmentation du SMIC. Enfin, pardon, mais...
Non, mais allez demander aux restaurateurs comment ils s'en sortent en ce moment dans la période, alors que ça fait des années, et je le sais puisque j'ai financé mes études en travaillant dans la restauration. Allez demander aux restaurateurs s'ils ne sont pas un tout petit peu dans le pétrin là, à force depuis 20 ans d'avoir traité leurs employés, et pardon de le dire, un peu comme de la merde, et aujourd'hui ils se retrouvent face à des gens qui disent « vous êtes gentils, mais moi, pour 800 balles par mois, je ne vais pas venir travailler 70 heures par semaine dans la restauration. »
Personne qui a 800 balles par mois non plus, mais il ne faut pas...
Ben, y a un truc qui s'appelle le RSA, et je pense que vous seriez surpris de savoir qu'il y a beaucoup de gens
qui travaillent pour moins de 800 balles par mois.
Oui, vous avez raison, j'exagère un petit peu. Mais en tout cas, les conditions de travail des gens sont quand même assez déplorables. Donc c'est bien de parler de pouvoir d'achat et c'est bien de parler de sécurité. D'ailleurs, je suis content de voir que vous avez continué à parler de sécurité parce que ça a l'air d'être l'alpha et l'oméga pour vous. Mais il faudrait aussi voir comment on augmente le pouvoir d'achat des Français et aussi leurs conditions de vie.
Bon, tout cela font partie des préoccupations. Merci Baptiste. Alors déjà d'être venu au secours de Nicolas Corato, qui pensait être esselé à un moment. On a bien compris de quel côté vous placiez. Très intéressant. On va continuer l'échange avec nos vraies voix. On doit marquer marquer une respiration, mais gardez bien tout cela en tête parce que le débat est passionnant. Et puis surtout, on a parlé du moment présent, on va aussi parler de l'après, quand les élections européennes vont arriver en 2024. À tout de suite.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
La rentrée politique se prépare. LFI réussira-t-elle à préserver la NUPES des divisions? On a parlé du contexte actuel avec les universités d'été de tout le monde. En même temps, Europe Écologie Les Verts, le PS, le PC. On a parlé des dernières déclarations qui ont gêné certains. Et puis, on va aborder, bien sûr, 2024, la question de l'Europe. Et là, peut-être qu'effectivement, nous verrons quelques divisions se renforcer. Mais c'est de la prospective. Et évidemment, pour savoir si ça va fonctionner comme ça, rien ne vaut la science du politologue Nicolas Corato. Alors, bon, qui a aussi ses opinions, mais c'est bien parce que ça va équilibrer avec, en présence en plateau, Guilhem Carayon, président des Jeunes Républicains, Vincent Chauvet, maire modem d'Autun, et Céline Revel-Dumas, qui, elle, est essayiste, qui a un regard politique. Mais alors, du coup, on ne saura rien de ses idées politiques. En revanche, les autres, on le sait un petit peu. Alors, question. On évoquait les derniers propos, tout à l'heure, de Jean-Luc Mélenchon, notamment. J'ai des déclarations aussi côté Europe Écologie Les Verts. Une liste commune avec LFI, c'est hors de question, déclare Karima Delli, une eurodéputée. C'est confirmé par Julien Bayou, d'ailleurs le chef du parti. Sandrine Rousseau nous dit « Il nous faudra confirmer l'espoir qui est né, sous-entendu la réussite aux dernières élections européennes de la liste menée par Europe Écologie Les Verts et Yannick Jadot. » Alors, c'est inévitable pour vous, cher Vincent Chauvet ?
Il y avait une plaisanterie à l'époque sur les Verts en disant les Verts, c'est 4 militants et 5 tendances. Et on voit que ça pourrait s'appliquer à la NUPES. Déjà, les Verts, chez eux, ne sont pas entièrement d'accord. Entre Karima Delli, qui est une députée européenne excellente, il faut le dire, puis Sandrine Rousseau, qui est encore dans un combat interne, je pense, dans Europe Écologie Les Verts, ils ne sont pas forcément d'accord sur l'attitude à adopter. D'autant qu'il y aura peut-être pour les Européennes des listes transnationales. Et là, il faudra se référé aux partis
aux
transnationaux,
groupes, hein. Aux groupes. Et de fait, ils ne sont pas dans le même groupe européen.
Ils sont dans au moins trois groupes différents. Les socialistes dans le groupe social-démocrate, qui d'ailleurs travaille très bien avec le groupe centriste libéral auquel j'appartiens. Les Verts dans un groupe vert, parfois d'ailleurs avec des régionalistes ou des autonomistes, notamment les Corses, qui sont assez proches de ce groupe. Et puis l'extrême-gauche anticapitaliste, avec les communistes et la France insoumise. Et donc, on voit mal comment ils pourraient, sur des questions d'intégration européenne, où les Verts historiquement sont fédéralistes. Moi, je me souviens de meetings communs, François Bayrou, avec des dirigeants verts comme Daniel Cohn-Bendit, pour le oui à la Constitution européenne. Il y a quand même ce oui et ce non, ce référendum de 2005, qui reste une pierre de touche, et où on a là, dans un même groupe, et ça a été une des raisons de l'explosion du PS d'ailleurs, pourquoi une partie du PS a créé En Marche et est venue vers Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron venant de cette tendance-là, c'est aussi parce qu'on avait des gens de gauche, et il y a toujours des gens de gauche dans la majorité, il y a un pôle de gauche avec Sacha Houlier, avec Clément Beaune, etc., qui sont des progressistes, qui sont des pro-européens, qui sont des sociodémocrates. Et on a plus de cohérence, finalement, à travers ce mouvement En Marche et ses alliés Modem et Horizon, qui sont dans un programme commun, que dans l'ANUPS. Et je voudrais simplement terminer en disant que votre politologue est un peu indulgent sur le fait que l'ANUPS s'est créé sur un programme commun.
Mais c'est
avant
un homme au grand cœur.
Avant de négocier les circos. Ouais. Parce qu'on se souvient de l'épisode où il y avait d'abord Europe Écologie qui avait négocié au bout de 4 heures ou 4 jours de discussion à 4 heures du matin, puis le PCF, puis finalement le PS qui votait plus ou moins avec la bonne instance pour se raccrocher avec les miettes qui restaient. Ça a été d'abord une alliance électorale avant d'être une alliance programmatique. D'ailleurs, je ne sais pas très bien quelles parties du programme ont été appliquées et ceux dont les Français se souviennent.
Alors, l'abbé Pierre vous répond. Pardon, Nicolas Corato vous répond.
je ne suis pas qu'un observateur objectif, vous l'avez bien compris, j'ai ma part de subjectivité et d'opinion, mais je trouve intéressant quand même de noter cette obsession actuelle de l'ensemble des acteurs de la vie politique sur les divisions supposées de la NUP, ce qui tente à prouver quand même que la NUPES n'a pas complètement raté sa cible ni son objectif, et que cette alliance inattendue et inédite, d'une certaine manière, dérange, voire peut-être fait peur. Et je comprends que quand on vient d'un parti où on a à la fois monsieur Éric Ciotti et Mme Pécresse.
Donc là, c'est l'ANR, c'est pour vous, Guilhem Carayon.
On préfère jouer les grandes fumées en allant chercher des petites divisions chez les autres que les grandes chez eux-mêmes. Pour revenir aux européennes,
Alors, bah, attendez, Guilhem Carayon vous répond, et on revient aux européennes. Guilhem.
Non, non, pardon, mais enfin, la France insoumise, on parle là d'une liste commune aux élections européennes, la France insoumise prône la désobéissance aux traités européens. Vous l'avez dit, les écologistes, ils prônent un fédéralisme européen. On est sur les deux théories les plus aux antipodes. Donc bon, faire une alliance avec des gens qui pensent l'exact inverse, moi je vois pas à quoi ça sert à part gagner des parts de marché. Je le redis, mais je crois que c'est ce que les Français pensent en tout cas.
Nicolas Corato, oui.
Sans que vous relisiez les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur ce qu'il appelle la désobéissance européenne, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, contrairement à Monsieur Ciotti, n'a jamais plaider pour la sortie de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, par exemple. Et je pense que ça, c'est un sujet bien plus clivant dans votre camp que ce que vous venez de citer dans le camp de la gauche. Et pour revenir sur les européennes...
Alors, juste Nicolas, de l'autre côté du filet.
Je vais répondre. Ouais. Quand on voit que l'arrêté d'expulsion de l'imam Iqwisen a été suspendu par le tribunal administratif et que des députés de la France insoumise, David Guiraud notamment, se sont réjouis de cette annulation de l'arrêté d'expulsion, oui... Évidemment, on peut se poser des questions sur certains articles de la CEDH.
Et on arrêtera notamment les énumérations.
Notamment l'article 8 sur le droit.
Alors que la CEDH a validé l'expulsion.
L'article 8 sur le droit au respect à la vie familiale.
Voilà, la Commission européenne.
Mais vous irez en débat avec... Moi, je serais très, très intéressé par les débats internes aux Républicains sur ce sujet, notamment de...
Ah bah venez à nos universités d'été qui auront lieu les 3 et 4 septembre à Angers. Vous êtes le bienvenu.
Des droits de l'Union européenne.
Bon, vous êtes le bienvenu.
C'est tendance. Rachida Dati sera d'ailleurs aux universités d'été dès les filles. Bon, allez, cher Nicolas, allez-y, on file à l'Europe. Vous vouliez nous dire.
Sur les élections européennes, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit votre intervenant. D'abord, ce sont des élections qui, traditionnellement, sont des élections favorables à des partis qui ont moins de chances sur d'autres types de scrutins. Et c'est vrai qu'il y a une tradition de fort score, par exemple, des écologistes avec la proportionnelle aux élections européennes. Et donc, va se poser la question très électoraliste et politicienne de savoir s'ils ont intérêt à poursuivre l'aventure en solo ou à continuer à s'allier sur un projet européen. Et je le comprends là, effectivement. Je parlais des 650 propositions qui ont été actées le 30 mai. Je rajoute également que c'était inédit pour la première fois de présenter dès le premier tour un seul candidat à gauche, inédit dans l'histoire de la Ve République. Mais il y avait une question la seule question finalement qui avait failli faire capoter l'alliance, c'était bien celle de l'Europe. Donc on va voir revenir ce débat sur le positionnement des forces de gauche actuelles sur l'Union européenne, avec un parti socialiste qui a quand même clarifié sa position, mais on le sait, à la France insoumise, des positions qui peuvent être parfois antinomiques. Donc oui, effectivement, il y a un débat, il ne faut pas le nier, inhérent à la gauche, toujours, depuis 2005, depuis l'occasion ratée de 2005, finalement le référendum volé de 2005, il y a un débat inhérent à la gauche sur la manière dont on construit et dont on continue à construire l'Union européenne.
Réaction, Nicolas Corato, Vincent Chauvet.
C'est à mon avis le plus grand débat qui énerve la gauche aujourd'hui.
Vincent Chauvet.
Non, mais je suis assez d'accord que l'Europe, la coopération, le nationalisme, le souverainisme, qui est aussi un débat à droite, il faut aussi le reconnaître, que les fédéralistes finalement sont assez au centre et que les deux camps de gauche et de droite sont traversés par cette fracture. Et ça va être assez amusant aux européennes parce que, comme le dit Nicolas, il n'y a pas d'intérêt vraiment à s'allier. C'est la proportion intégrale. Et à chaque fois, les écolos font un gros score. La France insoumise peut espérer avoir des députés. Il y a des sortants pour les socialistes. Donc, ils vont être en concurrence. Et on va voir comment une alliance se comporte avec des scrutins en concurrence. En tout cas, je vous donne un scoop qui, à mon avis, n'en est pas un. Mais la majorité présidentielle, elle, qui a été unie la dernière fois, sera probablement aussi unie pour le scrutin des européennes.
Alors, il se dit, Nicolas Corato, que le PS ne ferme pas totalement la porte à cette union pour les élections européennes avec LFI, parce que le PS veut se séparé de Raphaël Glucksmann, qui était la tête de liste aux dernières européennes de place publique et qui n'avait pas... Donc ça pourrait être aussi une situation intéressante pour le PS. Vous confirmez ou pas ?
Oui, je confirme et j'ajoute qu'il y a quand même une autre donnée. Alors, il y a du temps et de l'eau va passer sous les ponts d'ici les élections européennes, mais quand même. Il y a une autre donnée, c'est que finalement, les sympathisants et les militants de gauche sont très attachés à la NUPES. Pour l'instant. Et que dans les états-majors des partis de gauche, c'est une donnée qu'il faut prendre en jeu. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas décevoir les militants et les sympathisants qui, pour l'instant, se félicitent plutôt de cette alliance. Finalement, la NUPES, pour l'instant, à gauche, je sais bien qu'à droite, elle énerve, qu'elle irrite, Mais à gauche, a plutôt bonne réputation. Encore une fois, je cite des études d'opinion sur les militants et les sympathisants de gauche. Donc, qui comprendrait mal, finalement, que quelques mois après, pour des questions purement électoralistes et de position et de place et de mandat, la NUPES n'arrive pas à reproduire ce qu'elle a fait au niveau national, au niveau européen. Donc ça, c'est un vrai sujet qui va concerner le peuple de gauche pour ces prochains mois.
Bon, très
je ne dis
bien.
Pas que le sujet est facile, hein, oui. Je pense qu'il est difficile et qu'il est politiquement, c'est, autant, et c'est très cohérent dans la majorité présidentielle, et je suis d'accord avec ça, il y a absolument, quasiment aucune différence ou divergence sur le projet européen entre les alliés du Modem et de Renaissance. Autant à gauche, il y a un débat qui est constant, mais qui n'est pas nouveau et qui n'a jamais été caché d'ailleurs.
Merci Nicolas Corato, promu donc ce soir au rang de grand témoin, mais qui n'oublie pas ses bonnes habitudes de vraie voix, parce que finalement vous êtes rentré dans le débat avec l'excellent Guilhem Carayon dans le rôle de débatteur, l'excellent Vincent Chauvet, et puis la très pondérée qu'on a surtout entendue sur la littérature, Céline Revel-Dumas, mais qui, bien sûr, ont contribué tous à faire de cette émission un grand moment de bonheur. Et pour moi, ces trois semaines, beaucoup de plaisir. J'espère vous retrouver très rapidement sur Sud Radio. Allez, les infos, bientôt.